Chapitre 8. Ce lundi 5 novembre, vers 10 heures du matin, je me fis annoncer à Lord Melrose que je trouvais dans sa chambre en train de se faire raser par Papyropoulos, qui ajoutait des talents de barbier à ceux de tailleur. Pendant que le grec achevait de raser et d'habiller son maître, j'admirais une toile de Mademoiselle Vigée Lebrun, dont Sir Randolph me dit qu'il s'agissait de sa défunte épouse. La femme était d'une joliesse un peu mièvre et souffroteuse, déparée par l'une de ces coiffures monumentales qui faisaient rage en France à la veille de la Révolution. Légèrement inclinée, la tête semblait succomber sous le poids de cette ridicule superstructure capillaire. Je m'aperçus d'autre part que la bibliothèque particulière de Lord Melrose comprenait surtout des ouvrages de médecine, de morale et d'éducation, notamment le traité de l'éducation des filles de Fénelon. Papyropoulos partit. Je fis remarquer à Sir Randolph, « Vous avez certes, milord, accompli un immense effort pour bâtir autour de Lady Parthenope un monde en harmonie avec le supplément de charme dont la nature l'avait pourvu. Mais, à quelque grivoiserie près, cet effort a porté sur le décor plutôt que sur la morale ou l'éducation proprement dite. Or, vous aviez les moyens de faire croire tout ce que vous vouliez. L'idée ne vous est jamais venue d'inaugurer une morale et une éducation toute nouvelle, en accord avec les besoins et les intérêts profonds de Lady Parthenope ? J'outrerai terriblement ma pensée pour mieux me faire entendre. Qu'est-ce qui empêchait, par exemple, dans cette villa inspirée de Pompéi, de transformer Lady Parthenope en vestale moderne entretenant un feu sacré ? Lord Melrose sursauta et me répondit.
« Dieu merci, je n'ai pas succombé à un tel vertige. Au contraire, j'ai vu dans la queue de Parthenope la punition de mes péchés. Ce n'est pas dans cet état d'esprit que l'on réinvente la religion, la morale et l'éducation. Une pareille tentative aurait d'ailleurs accru dans de grandes proportions les difficultés pratiques de mon entreprise ainsi que les risques d'échec. Mais quel bon vent vous amène après une nuit si agitée ?»
Cherchant mes mots, je dis à Sir Randolph. Il m'est clairement apparu ce matin que je ne pouvais plus longtemps profiter de l'hospitalité de votre grâce sans régler au moins provisoirement, mais de la façon la plus honnête, la délicate question de mes rapports avec Lady Parthenope. Un mariage ne saurait se décider sur un simple emballement physique. J'ai le sentiment qu'un certain délai m'est nécessaire pour apprécier comme il se doit toutes les autres qualités de Lady Parthenope et pour me faire à la perspective de passer le reste de mes jours sur Kalinaos. Lord Melrose m'interrompit de telle sorte qu'on voyait bien qu'il avait déjà réfléchi au projet.
« Qui vous parle de vous enterrer sur cet îlot désert? Ce sacrifice est bon pour un père et non pour un mari. » Après votre lune de miel, vous iriez par exemple traquer Bonaparte avec mes 300 000 livres sterling et Parthenope connaîtrait les joies épisodiques et l'honneur permanent qui sont déjà le lot de tant d'épouses exemplaires d'officiers de notre marine. Que peut-elle au fond espérer de mieux ?
C'était la deuxième fois que Lord Melrose faisait allusion à cette somme énorme et l'arrangement qu'il faisait miroiter était fort séduisant. Il avait même dû prévoir le cas où, déçu par les amours extraordinaires, j'enverrais un glorieux faire-part de décès. Ne vaut-il pas mieux pour une fille être veuve que vierge? La facilité de tout cela levait le cœur et me dictait des paroles honorables. Si ce mariage se fait, milord, je passerai bien volontiers la moitié de l'année sur Kalinaos. Quant à votre argent, conservez-le plutôt pour entretenir un décor qui serait si utile à mon bonheur. J'ai de mon côté, sous forme d'espérance, une fortune plus que suffisante et je n'ai nulle envie d'être soupçonné de vénalité par qui que ce soit.
Si la queue de ma fille vous plaît vraiment, il n'a aucune honte à toucher au moins les revenus de sa dot.
Le « si » qui vient de tomber de la bouche de votre grâce commande ma conduite. Pour en revenir à ce qui m'amène, je veux rassurer votre grâce entièrement. Je me tiendrai sur la réserve à l'égard de Lady Parthenope tant que je n'aurai pas pris la décision de demander sa main ou sa queue, si l'on préfère. En attendant, je crois bon que personne, en dehors de nous deux, ne soit mise au courant des sentiments que je pourrais nourrir, et même que Babington reste le seul à savoir que j'ai percé le secret des lieux. Je compte sur votre grâce pour lui faire la commission. » Lord Melrose me remercia et m'approuva. J'étais à la porte quand il me prit par les épaules et me dit d'une voix émue : « Quelle leçon me donne votre amour ? Si j'avais eu des sentiments chrétiens, l'esprit de simplicité, la première fois que j'ai vu la queue de Parthenope, au lieu de trembler bêtement d'horreur, j'aurais certes pensé « Ah, la jolie petite queue, qu'elle est souple et bien faite, comme elle sera utile pour jouer, comme elle va prêter de grâce à la démarche, j'aurais pu être le premier homme, j'aurais dû l'être, à chérir cette queue, et je vois que j'ai perdu mon temps jusqu'ici puisque j'ai travaillé honteusement. » En baisant un jour, s'il plaît à Dieu, la queue de ma fille, vous ferez plus pour elle en un instant que tout ce que j'ai fait moi-même. » Et cédant à son émotion, Lord Melrose m'embrassa avec frénésie comme pour se revancher sur ma personne de tous les baisers dont il avait privé la queue de Parthenope enfant. Après cette scène si peu anglaise, d'attendrissement larmoyant, je connus une semaine des plus heureuses, goûtant du matin au soir la compagnie de Parthenope devant des témoins qui avaient la plupart du temps le bon esprit de ne pas nous serrer de trop près. S'il pleuvait, Parthenope me donnait des leçons de billard ou jouait au whist pour me faire plaisir, divertissement auquel Lord Melrose, Babington ou McLaurin étaient passés maîtres. En deux soirées de whist, je me rappelle avoir perdu sur parole la somme de 47 livres sterling, et encore parce que ces messieurs avaient la politesse de jouer petit jeu pour ménager mes finances. Si le soleil brillait, je suivais Parthenope à la chasse. Kalinaos était d'autant plus giboyeuse que Lord Melrose élevait toutes sortes de gibiers au fond de son parc, qui étaient lâchés au fur et à mesure des besoins. Quand il n'y en avait plus, il y en avait encore. Et ces pauvres bêtes venaient se faire massacrer avec d'autant plus de bonne volonté qu'elles avaient été nourries par l'homme et accoutumées à sa présence. Ces parties de chasse avaient leur mauvais côté. Lorsque nous sortions à cheval, bien que Parthenope me choisît des montures faciles, j'avais du mal à faire bonne figure sur les chemins caillouteux ou au milieu des fourrés. J'ai toujours tenu le cheval, selon l'expression célèbre, comme un animal haut debout et inconfortable au milieu, dont la plus grande qualité est de fournir une excellente graisse de complément pour les fritures. Et que nous chassions d'une manière ou d'une autre, je ne m'intéressais guère à la chasse proprement dite. J'avais déjà, en ce temps-là, les soucis d'un zoologiste pour lequel les animaux sont dignes d'être observés, étudiés, disséqués ou naturalisés. Mais ces chasses avaient heureusement leur bon côté, qui l'emportait de loin sur les pires. J'avais enfin toute disponibilité pour admirer les paysages et la végétation de Kalinaos, dont les essences variées et entêtantes avaient de quoi ravir une vue et un odorat amoureux. Il est bien connu que la naissance d'une tendre inclination, voire le premier degré d'une passion irrésistible, prédispose les amants à apprécier la nature, tandis que les scènes de ménage les en détournent. Autre avantage, je pouvais bavarder avec Parthenope beaucoup plus librement qu'à la villa, et avec une Parthenope en culotte de peau, dont la queue agile me maintenait dans un état d'excitation et de ravissement perpétuel, malgré mes loyeux efforts pour le dissimuler. Parthenope semblait sans s'attendre à ce que je profitasse de la moindre occasion pour lui caresser la queue comme à la chapelle, peut-être pour baiser sa joue, et je devais me prendre à deux mains pour résister à la tentation. Mais je ne pouvais empêcher mes regards de parler à ma place. Sur les animaux, Parthenope m'apprenait une foule de choses, de celles qu'on ne trouve point dans les livres et que les chasseurs sont seuls à connaître depuis les temps préhistoriques. Et comme en matière d'art, elle avait même quelques idées générales qui lui étaient personnelles, qualité que l'on retrouve si rarement chez les femmes et, il faut bien l'avouer, chez la plupart des hommes. Il me souvient de cette pertinente réflexion.
Si l'on entend par intelligence la capacité de modifier son comportement habituel devant un imprévu, les bêtes les plus stupides sont celles qui paraissent les plus savantes. L'abeille, par exemple, est une merveilleuse mécanique de haute précision que le moindre impondérable met en panne. C'est seulement chez quelques mammifères supérieurs que l'instinct aveugle n'étouffe pas entièrement une apparence très réduite et très rudimentaire de liberté. Une minime adaptation à de nouvelles circonstances est alors possible, qui rend la chasse plus distrayante, sans présenter pour autant de grandes surprises. En bref, les animaux purement instinctifs manquent d'intérêt parce qu'ils ne sont qu'instincts, et les animaux qui s'adaptent manquent d'intérêt parce que cette adaptation est minime. Il n'y aurait que l'homme pour faire un gibier passionnant, mais allez donc demander cela à des domestiques aujourd'hui.
Cet humour me changeait agréablement des mornes conventions provinciales de Shrewsbury. En tout cas, je collais à Parthenope d'autant plus près que je ne tenais pas à servir de gibier à ces chiens, dont certains avaient la taille d'un veau. Un soir, je l'ai aidé à dépouiller trois gros matous et à préparer les pots pour la couverture anti-rhumatimale destinée à l'anniversaire de Lord Melrose, tandis que Miss Tipps, telle une daigne, rôdait dans la coulisse. Je revois toujours Parthenope mettre de côté les six testicules dans un bocal à cornichons comme gourmandise pour sa chienne préférée qui allaitait avec tendresse.
« Miss Tipps, »
me souffla-t-elle en pouffant,
« crois qu'il s'agit de rognons. Quand on fait de pareilles confusions, il ne faut pas s'étonner de finir vieille fille. »
Je ne m'ennuyais pas un instant avec Parthenope, première condition d'un mariage assorti, car on passe plus de temps debout que couché. Sa conversation était d'une vivacité et d'une fantaisie charmantes. Je ne distinguais pas même les quelques défauts qu'on m'avait fait pressentir, sans doute parce que la première réaction d'une jeune fille à laquelle un homme s'intéresse est celle de se modeler avec un instinct d'abeille sur l'idéal qu'elle pressent chez l'observateur. Avec moi, Parthenope était toute simplicité, toute facilité, toute douceur, un œillet à peine poivré sur du miel de limette. La bonne compagnie de Kalinaos et les domestiques eux-mêmes étaient naturellement fort embarrassés et intrigués par la prolongation de mon séjour. Clio en était demeurée à la fable qu'elle m'avait racontée faute de mieux et n'osait plus ouvrir la bouche sur cette question brûlante, malgré quelques taquineries de ma part qui prolongeaient ses pénibles alarmes. Confus de ces procédés pseudo-médicaux, Babington se tenait sur une réserve pleine de gêne et ne paraissait point trop rassuré par ma présence. McLaurin affectait une parfaite politesse et Bentivoglio était un vrai sphinx. Je ressentais un puéril plaisir à ce renversement de situation où je savais enfin, alors que les autres étaient en proie au doute. Au matin du samedi 10 novembre, le temps pluvieux n'était pas favorable à la chasse. Parthenope m'amena avec une faible escorte sur le site de ses fouilles en bordure de mer à la sortie du village abandonné. Non loin de là, quelques gros platanes, dépouillés par la saison, paraissaient monter une garde désolée sur ce champ de ruines ensevelies. Les explications de Parthenope, où une certaine science faisait un curieux mélange avec la duperie dont elle était bénéficiaire, furent bientôt interrompues par une averse diluvienne et nous nous réfugiâmes dans la chapelle tandis que l'escorte s'abritait dans une maison quelconque. Pour gagner cette chapelle, nous avions traversé en courant le cimetière désaffecté du village. Parthenope m'apprit qu'elle avait découvert à proximité immédiate de ce funèbre périmètre une tombe grecque de haute époque qui avait livré les restes d'une femme accompagnée de quelques bijoux et poteries. Chose remarquable, bien caractéristique d'une coquetterie primitive, les ossements de la queue étaient encore cerclés par une bague en or. Selon toute vraisemblance, les artistes de Lord Melrose avaient emprunté un cadavre au cimetière orthodoxe qu'ils avaient complété par la queue d'une bête idoine. L'imagination précautionneuse de Sir Randolph ne connaissait pas de limites. Tout lui était bon pour perfectionner sans cesse son théâtre. Je sentais Parthenope distraite, et après un bavardage sans conséquence, elle me déclara soudain, en arrêt devant le Saint-Georges,
« Vous seriez étonné par le cauchemar que je fais parfois depuis quelque temps. Je rêve d'un pays où les hommes n'auraient pas de queue. Et je ne parle pas des nègres, mais des personnes comme nous autres. »
Elle se rendit compte sur le champ que ce terme de cauchemar n'était pas trop aimable pour moi, et elle se reprit vivement, posant la main sur mon avant-bras.
« Il va sans dire que le défaut de queue vous va très bien. Oui, votre silhouette en est affinée. Vous avouerez pourtant que si tous les gens étaient ainsi, l'effet serait plutôt étrange. Je ne sais pourquoi ce mauvais rêve est associé à des visions de prêtres et de chapelles. J'ai dû voir une chose il y a des années qui m'a impressionné. Mais quoi ? Si cet incident me revenait, peut-être mon cauchemar s'en irait-il. Qu'en pensez-vous ? »
Ces paroles me furent une douche glacée. Mon cœur s'arrêta et j'eus du mal à dissimuler mon trouble. Pour toute réponse, craignant que ma voix ne me trahît, je serrai Parthenop contre moi et l'embrassai d'une manière de plus en plus audacieuse. Effarouchée, elle se dégagea, se détourna. Avec une douce fermeté, je la retins par la queue et lui glissai enfin à l'oreille.
« Si vous le permettez, j'aimerais passer ma vie à vos côtés sur Kalinaos pour vous protéger de tout rêve superflu. Le voulez-vous aussi ?»
Parthenop ne dit ni oui ni non, mais sa queue s'impatienta que je dis laisser courir. Marchant vers la porte, elle me fit observer.
« Chaque fois que nous sommes réunis dans une chapelle, vous trouvez moyen de me prendre par la queue sous un prétexte ou un autre. Voilà qui n'est guère convenable. Vous conduirez-vous de la sorte en Angleterre ? Lorsque je devrai confesser ça à Bentivyglio, il en aura une montée de bile. Ne savez-vous point que les queues de jeunes filles sont très sensibles, qu'elles sont en relation avec le cœur par le nerf sympathique ou quelque chose de ce genre ? »
Je balbutiai des excuses peu convaincantes. Cette scène précipita ma décision de demander Parthenop en mariage à Lord Melrose. Je venais de saisir à quel point j'aimais cet enfant. À tous les motifs qui me poussaient et qui tenaient en qualité de la jeune personne, s'ajoutait le pressant souci de protection qui avait conditionné chez son père comme une seconde nature. En rentrant, je trouvai Lord Melrose dans une petite salle d'armes où il tirait au fleuret contre un robuste gaillard dont l'allure ne m'était pas familière. Tandis que l'assaut se terminait, j'hésitais encore à mettre Sir Randolph au courant des rêves de Parthenop, si dangereux mais si vagues que le risque était grand d'alarmer en pure perte. Je décidai de garder l'information pour moi. Si j'avais agi autrement, Parthenop ne s'en fût sans doute pas mieux trouvé. Ces messieurs ôtèrent leurs masques, et Lord Melrose me présenta comme capitaine de la comète un barbu dont j'ai oublié le nom, avec ce commentaire.
« Il m'aide à garder la forme et à lutter contre les rhumatismes. Quand on ne vit plus pour soi, ne faut-il pas prendre garde à sa santé ?»
Le capitaine s'étant retiré discrètement, je demandai à Sir Randolph l'autorisation de faire ma cour à Parthenop, ce qui le jeta dans une jubilation, une transfiguration qui faisait plaisir à voir.
« Nous serons deux désormais, lui dis-je, à veiller sur Parthenop. Je suis fier et heureux de pouvoir couronner vos propres efforts. Ce mariage inespéré pour tout le monde est d'abord votre réussite et la meilleure preuve que la voie suivie était la bonne. »
Après s'être mouché vigoureusement, Sir Randolph me mit en garde contre Bentivoglio.
Puisque c'est lui qui doit célébrer ce mariage, il convient de lui parler en premier, et avec d'autant plus de tact que j'ai des doutes sur sa bonne volonté. C'est un homme doctrinaire qui a des idées arrêtées sur tout. J'aurais bien préféré garder Donegan, je vous souhaite de le convaincre. Si des difficultés s'élevaient, j'entrerai naturellement en lice pour les aplanir. »
Dans la crise de sympathie, de désintéressement, de générosité où j'étais, je ne pris pas l'avertissement au sérieux. Qu'est-ce que Bentivoglio aurait pu trouver à redire au projet et de quel droit s'y serait-il opposé? Le jésuite était à la bibliothèque en train de travailler à sa thèse. Je lui demandai la permission de m'asseoir tête à tête pour l'entretenir d'une affaire importante sous le sceau du secret. Au dernier instant, l'idée me frappa que ma position serait sans doute plus forte, le prêtre plus embarrassé pour élever des objections, si je jouais la comédie que permettait le silence de Babington sur les révélations que Lord Melrose m'avait faites. Il y avait là, d'ailleurs, une plaisante revanche à prendre. C'est donc sur le ton le plus innocent que je déclarai au chapelain. « Vous avez dû vous demander, mon révérend père, pourquoi j'avais prolongé mon séjour à Kalinaos. La raison en est fort simple et je tenais à vous en informer avant tout le monde. Sir Randolph m'a autorisé à faire une cour respectueuse à Lady Parthenope en vue d'un mariage que vous pourriez avoir à célébrer bientôt, dès que serait arrivée la dispense qu'oblige à solliciter ma religion anglicane. Bien entendu, je m'engage à élever mes enfants dans la religion catholique, apostolique et romaine. » Bentivoglio ne put retenir une grimace, comme s'il avait avalé une gorgée de fiel par surprise. Faisant mine de ne pas m'apercevoir de sa réaction, je poursuivis. « C'est un mariage d'inclination. Il me semble que je ne suis pas indifférent à Lady Parthenope, dont la beauté classique a fait ma conquête. » Et je suis d'autant plus reconnaissant d'avoir été agréé que je suis d'origine bourgeoise et affligé par l'infirmité que vous savez. Ce sera pour moi un grand honneur et un grand bonheur que de cacher ma disgrâce sur cette île dans les bras d'une épouse tellement au-dessus de mes mérites que j'ai résolu, malgré les cordiales instances de Lord Melrose, de la prendre sans dot telle que le bon Dieu l'avait faite. Le jésuite tira un grand mouchoir de sa manche, s'essuya les mains et s'essuya le front.
Vous ne vous sentez pas bien, mon révérend père ?
Si, si.
Quelque chose n'est pas en ordre ? Le défaut de queue serait-il un cas d'empêchement ?
Non, non.
Je suis bien jeune pour me marier, assurément, mais ne vaut-il pas mieux se marier que de brûler et d'entrer dans la Guéenne avec une queue en flamme ? N'est-ce point votre avis ?
Pardonnez-moi. Avant de vous répondre et de vous féliciter comme j'aimerais à le faire, je dois consulter un moment Lord Melrose, dont l'attitude me surprend un peu. »
Il ne faut jamais condamner un interlocuteur au silence par des arguments sans réplique. Quand Bentivoglio revint s'asseoir, il était d'humeur exécrable.
« Lord Melrose m'a mis au courant. Je vous trouve le cœur bien accroché de plaisanter avec une pareille affaire. »
Je me bornais, mon père, à garder un secret comme vous l'aviez gardé vous-même à notre première rencontre, où vous n'aviez pas l'air de plaisanter pour si peu. Passons, il nous reste une demi-heure avant le déjeuner. Je vous parlerai comme au grand garçon doué de raison, responsable de ses pensées et de ses actes que vous étiez avant de connaître les affres de la couronne et les extravagances de Kalinaos. Lord Melrose vient de m'affirmer fièrement que ma paroissienne vous plaît, et même que sa queue exercerait sur vos sens juvéniles une fascination privilégiée. Voilà qui est admirable. Pourtant, cette étrange attirance, avez-vous bien réfléchi sur sa nature?
Vous épouseriez en dépit de cette queue. On pourrait considérer votre penchant comme excusable. Mais si vous épousez à cause, cela ne porte-t-il pas un nom infâme dans toutes les langues ?
Le jésuite se pencha vers moi et articula dans un souffle. « Celui de bestialité ! Mon Dieu ! Quelle horreur !» Devant une telle insolence, je dus me maîtriser pour garder mon sang-froid, et je répondis « Un peu de logique, s'il vous plaît. Ou bien Lady Parthenope est une femme et sa queue est un attribut humain, digne d'amour et d'intérêt, ou bien Lady Parthenope est une guenon par la queue comme par le reste, et c'est un abus que de la réputer votre paroissienne. Il faut choisir. Les centaures étaient mi-hommes mi-bêtes, mais l'espèce en a disparu avec la mythologie. »
C'est vous-même, mon ami, qui est illogique, puisque dans ce corps femelle, que vous déclarez purement et entièrement humain, vous faites un sort particulier à un organe de toute évidence simiesque, au lieu de vous ravir avec d'autres attraits. D'où vous vient cette extraordinaire préférence? Dites-le-moi donc, au lieu de biaiser. »
Avec cet individu rompu à la casuistique, j'avais affaire à forte partie. Satisfait de mon silence, Bentivoglio reprit.
« Passons encore sur ce point de détail. Après tout, Il y a de la bête en l'homme, un peu plus ou un peu moins, peu importe. Arrivons à l'essentiel. Dans l'état présent des sciences, personne ne peut dire pourquoi Lord et Lady Melrose ont eu une enfant anormale.
Exceptionnel, vous voulez dire? La nuance a son prix.
Une enfant, disons, très exceptionnelle. Si Lord et Lady Melrose, de conformation normale, ont eu une enfant d'exception, le risque est grand que Lady Parthenope engendre des rejetons à queue, non seulement des filles, mais peut-être des garçons. Avez-vous un peu songé à cela entre deux fascinations morbides?
Vous oubliez, mon père, que vous parlez là à un amoureux qui trouve les queues charmantes.
Une queue à la rigueur, mais 12, mais toute une population de grands singes shakespeariens qui rempliraient Kalinaos de leur babillage avant de se répandre sur les Ioniennes, sur la Grèce, sur l'Italie, marchant en possession vers Rome pour demander la bénédiction du pape. Comme vous y allez, là, il a suffi d'Adam et d'Ève pour donner le jour à une humanité sans queue.
Et alors, sa sainteté refuserait-elle de bénir les queues de ses pèlerins?
La question n'est pas de savoir comment l'Église catholique, sans parler de l'anglicane, s'accommoderait théoriquement du phénomène. Les théologiens ont toujours réponse à tout et n'en sont pas à une queue près. Dieu peut tout d'un coup donner une âme à un singe, à un papillon même, si cela lui fait plaisir. Mais que dirait l'engeance des voltairiens, des rousseauistes, des francs-maçons, des libéraux, des disciples de Locke et de Hume? Ne voyez-vous point quelle machine de guerre contre les églises chrétiennes il ferait de la queue de Lady Parthenope et des suivantes?
Précisez votre pensée, je vous prie.
Ces messieurs s'empresseraient de soutenir ou d'insinuer, sans autre preuve, que l'homme a une ascendance animale, autrement dit, qu'il descend du singe, qu'il y a évolution continue et filiation incontestable entre les êtres vivants les plus primitifs, issus eux-mêmes de la matière inerte surgie du néant, et les humains les plus perfectionnés, qui le seront davantage encore après-demain. Et de ces hypothèses gratuites, présentées abusivement comme des faits, les ennemis de la religion tireraient la conséquence tout aussi gratuite que l'homme n'a pas plus d'âme que le singe ou la souris, et que la nature n'a pas besoin de Dieu pour marcher vers un progrès enivrant. Si tant est que des esprits humains puissent être assez vicieux et assez dégradés pour s'enivrer à la vision d'une humanité de bêtes brutes. Toutes ces sottises, toutes ces impiétés, tous ces blasphèmes seraient d'ailleurs orchestrés avec d'autant plus d'imprudence, de force et de mauvaise foi que les preuves irrécusables de l'évolution persisteraient à se faire attendre. L'athéisme militant est en quête d'un drapeau plus sérieux, d'apparence plus scientifique que le tricolore chiffon de la Révolution française. Qu'on lui présente une queue, et il sautera dessus telle une grenouille. Lady Parthenope porte en elle de quoi alimenter le grand abus de confiance du siècle. Comprenez-vous quelle est votre responsabilité? Où est votre devoir si vous avez conservé en vous, malgré les tentations de votre triste époque, la crainte de Dieu et le souci du prochain? Votre goût pour Lady Parthenope serait-il parfaitement normal et honorable que vous devriez encore le sacrifier à la paix des églises, au salut de tant d'âmes que guette une propagande démoniaque, au bonheur même de vos enfants qui feront d'autant mieux leur chemin dans la vie qu'ils n'auront pas de queue au derrière? Reprenez-vous, mon fils, l'heure est gravissime.
Après mûre réflexion, je dis à Bentivoglio: j'avoue éprouver un faible pour les théories transformistes, déjà effleurées par mon grand-père, du seul fait qu'elles sont à l'avantage de ma chère Parthenope, dont la queue magnifique prend ainsi une dignité quasiment ancestrale. Mais enfin, quelles que soient mes idées, quels que soient mes intérêts, ces théories sont vraies ou fausses. Tôt ou tard, il y faudra sans doute des siècles d'observations et de travaux, la balance penchera d'un côté ou d'un autre. En attendant, je ne vois pas pourquoi je sacrifierais mon bonheur et celui d'une innocente jeune fille à des craintes plus ou moins chimériques. D'abord, nous n'aurons peut-être pas d'enfants. Ensuite, si nous en avons, ils seront peut-être privés de queue par une fantaisie de la nature. Et en tout cas, si le secret de Kalinaos était un jour galvaudé et faisait l'objet de déductions philosophiques abusives, ce serait au mauvais philosophe plutôt qu'au vrai savant qu'il conviendrait en bonne justice de s'en prendre. Personnellement, j'ai trop de respect des sciences pour jamais chercher dans leur étude des arguments douteux contre la religion. Si tout le monde n'a pas ma sagesse, je n'y suis pour rien. Êtes-vous, oui ou non, disposé à célébrer ce mariage comme votre état vous en fait devoir? Dans cette affaire, les droits, les caprices même des individus l'emportent sur toute autre considération. Vous êtes assez bon théologien pour n'en pas douter. Bentiviglio se débattit comme un beau diable, mais il savait que j'avais raison sur la forme, sinon sur le fond. Comme sonnait la cloche du déjeuner, il me dit en désespoir de cause.
Je dois exposer le cas au cardinal Sacchetti et au général de mon ordre. Si mes supérieurs m'ordonnent de célébrer, je célébrerai la mort dans l'âme. Mais je dois attirer votre attention sur un point. La religion anglicane dont vous vous réclamez, création accidentelle d'un roi sanguinaire, prévaricateur et lubrique, ne sera jamais qu'une secte nationale parmi d'internationales hérésies, et toutes les richesses de l'Angleterre ne sauraient donner le change à ce sujet. C'est avec répugnance que l'Église romaine livre ses fidèles au mariage à des hérétiques, et la répugnance est à son comble quand il s'agit de ces anglicans qui ont martyrisé saint Thomas More. Une dispense de mariage n'est pas un droit absolu, mais une faveur, subordonnée aux perspectives d'éducation catholique des enfants. N'y comptez pas trop, en l'occurrence. Je ferai en tout cas l'impossible pour qu'elle ne soit pas accordée. Les motifs de réserve, généraux et particuliers, ne manquent point.
J'allais répliquer vertement à ce fanatique lorsque le soupçon me vint qu'il disposait d'une arme terrible si on le poussait à bout. Qui empêcherait Bentivoglio d'ouvrir les yeux de Parthenope sur le caractère original de sa situation, de préserver des intérêts spirituels au prix d'un assassinat moral? Comme si le jésuite avait deviné ma pensée, il ajouta.
Lady Parthenope n'a rien à craindre de moi. En m'efforçant d'éviter un mariage qui serait la source de souffrances et de troubles inutiles, ce sont ses propres intérêts que je défends, et je les défendrai de façon à justifier la confiance de Lord Melrose.
Durant tout le déjeuner, je remuais de tristes pensées, mon regard allant de la face rayonnante de Sir Randolph à la tête sinistre de Bentivoglio, en passant par le profil de Parthenope que l'on avait assise à ma gauche depuis quelques jours. Du train où marchait mon affaire, j'aurai une barbe blanche quand les bureaux de la curie romaine délivreraient la dispense, et si l'on se mettait d'accord pour un ministre anglican, c'est le siège de Canterbury qui éleverait des difficultés. Il eût été plus facile d'épouser une lépreuse.
Sans doute n'avais-je pas été éduqué dans une atmosphère de grande piété, mais nous avions toujours eu chez nous le respect de Dieu et de l'Église officielle, cher au patriotisme anglais. Il était déprimant, si plein de bonnes intentions, de se sentir abandonné par les deux églises qui eussent dû se réjouir humainement d'une union si touchante. Vers la fin du repas, pour me réconforter, je murmurai à Parthenope le dixain qu'avait poli la prévoyance de son papa. « Soupant à mon côté, etc., etc., etc. » Parthenope me répondit d'attendre le souper. Mais émue par ma déception bientôt, elle se souleva légèrement de son siège afin de glisser sa queue vers moi, et j'éprouvai des délices nouvelles à en tâter le bout à travers la robe, du pouce et de l'index, tout en bavardant de choses et d'autres.